Bonjour à tous. Je ne sais pas si on se rend bien compte du privilège que nous avons, et Franck l'a rappelé, du privilège que nous avons de pouvoir louer, adorer, chanter notre Dieu. Alors que dans certains pays, ils doivent se cacher pour le faire, dans notre pays, ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour louer leur Dieu. Est-ce qu'on se rend bien compte du privilège que nous avons? Et on fait encore ce matin, nous avons pris plaisir à le louer, à l'adorer, à chanter pour lui, à dire à quel point nous l'adorons, pour tout ce qu'il fait pour nous. Profitons de ces moments. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Nous ne savons pas jusqu'à quand on a cette liberté pour l'adorer et le louer. Profitons de ces moments. Alors, à travers la parole de notre Dieu, nous avons l'occasion de l'entendre nous encourager, nous soutenir, nous conseiller. À travers sa parole, il arrive aussi de nous interpeller sur des sujets qui peuvent paraître délicats, des choses qu'on n'aime pas s'entendre dire. Mais notre Père n'est pas juste là pour nous caresser dans le sens du poil. Il a un but précis pour chacun d'entre nous. Le but, c'est que petit à petit, nous gagnions en sainteté, en maturité, afin que nous puissions petit à petit ressembler à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, il veut nous interpeller sur un point qui est précis, qui risque de ne pas forcément nous faire plaisir. Mais quand le Seigneur parle, il sait pourquoi il parle. C'est pour notre bien. De la manière que nous, parents, des fois, nous servons nos enfants pour leur bien. Et bien, notre papa veut nous interpeller sur un premier prix. Vous avez le titre devant les yeux. L'hypocrisie chrétienne. Avant que je parle, je vais demander à... Je te remercie. Elle va afficher des mots que sûrement vous aimeriez entendre autour de vous. Je ne suis pas chrétien, mais je dois admettre qu'on ne peut qu'être admiratif en voyant leur attitude, leur posture, leur façon de penser. Ils ont quelque chose de spécial, ces chrétiens. Voilà des mots qui sonnent bien à nos oreilles. Ils sont doux, agréables et positifs. Il semblerait, à ce que j'ai vu sur Internet, que la plupart du temps, ce ne sont pas ces mots que nous entendons. La plupart du temps, et malheureusement, voilà ce que nous entendons. Les chrétiens, tous les hypocrites. Et ça fait mal d'entendre ces mots, d'entendre ces phrases. Et ce sentiment n'est pas uniquement partagé par les personnes qui ne fréquentent pas l'Église, qui regardent extérieurement. Ce sont des sentiments aussi partagés par les personnes qui sont venues à l'Église, des croyants, des croyantes, et qui ont été déçus par ce qu'ils ont vu, par les impressions qu'ils ont eues, par l'hypocrisie qu'ils ont ressenti dans les églises où ils allaient. Est-ce que cette image est une image faussée? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que l'hypocrisie existe vraiment au sein de nos églises? Pire, est-ce que c'est quelque chose qui règne dans l'église, dans notre église? C'est un point sur lequel notre Seigneur vous nous interpellez à travers un passage que je vous invite à lire avec moi. Alors, lui, ce matin, le passage de Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 4. Nous continuons à laisser notre Dieu nous parler à travers le sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 6, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit ceci. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas par en dessous. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leur louange. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le montre. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Je te prie qu'elle puisse faire son œuvre en nous, au plus profond de nous. Qu'elle enlève tout ce qui n'a pas sa place dans cette nouvelle créature que tu as fait de nous. Et apprends-nous à mettre en pratique tout ce que tu as à nous apprendre ce matin. Amen. Alors nous avons commencé l'étude du sermon sur la montagne, le chapitre 5. Ici, ce chapitre 5 a mis l'accent sur l'interprétation erronée de la loi des pharisiens. Le chapitre 6 va attirer notre attention sur notre manière d'appliquer cette loi. Et vous voyez que dès le début des versets du chapitre 6, notre Seigneur Jésus nous met en garde contre une attitude égoïste que nous pouvons avoir. Il faut savoir que ça ne date pas d'hier. Depuis l'Ancien Testament, on avait déjà de l'hypocrisie qui régnait au sein du peuple du Seigneur. Ésaïe chapitre 29, verset 13, qui est affiché, le Seigneur disait: ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais se dégoûte des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Ça existait déjà en Ancien Testament, et voilà que Jésus en remet une couche. Gardez-vous. Jésus s'adresse ici à une foule, vous venez l'écouter, composée de Juifs, son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et il nous interpelle ce matin. Gardez-vous. Car oui, si le Seigneur nous le dit, c'est que nous pouvons, si nous ne faisons pas attention, adopter une attitude hypocrite. Cette attitude qui est décrite dans les quatre versets que nous avons lus. Oui, il ne faut pas se voir de la face, l'hypocrisie existe dans les églises. Alors, il y a plusieurs types d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie qui est visible de tous. Ceux qui sont dehors voient cette hypocrisie. Le montrer d'hypocrite, c'est des personnes qui ont l'habitude d'aller régulièrement à l'église. Ces personnes qui invite, qui conseille, qui appelle à avoir une attitude pieuse. Ces personnes qui ont toujours un bon conseil. Ces personnes qui sont limite moralisatrices. Ne fais pas ceci. Ce n'est pas bien de faire cela. Tu devrais faire comme ça. Et malheureusement, dans la vie courante, ces mêmes personnes font tout le contraire de ce qu'elles disent. Le fruit de l'esprit qu'elle se vante d'avoir en elle, qu'elle encourage à développer, ces fruits de l'esprit ne se voient pas du tout dans leur vie. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ce proverbe le voit si bien. Est-ce là ce que le Seigneur attend de nous? Nous qui sommes appelés à être la lumière du monde. Le chrétien est un représentant, un ambassadeur du royaume de Dieu. Une attitude hypocrite ne peut que ternir l'image de l'Église et plus encore, fausser l'image que le monde a de Dieu. Parce que ce monde qui regarde, qui recherche Dieu, regarde à ses enfants. Dans le passage que nous avons lu, le Seigneur va aller un peu plus loin. Et il va nous parler d'une hypocrisie qui est un peu plus subtile, plus discrète, moins visible aux yeux du monde. Mais y a-t-il quelque chose qu'on pourrait cacher à notre Dieu? Notre Seigneur, nous l'avons vu en étudiant le chapitre 5, nous invite à être le sel de la terre, la lumière du monde, comme une ville au sommet d'une montagne qui est visible par tous, comme une lampe sur un pied qui éclaire toute une maison. Nous sommes appelés par notre Seigneur à briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire à notre Père Céleste. Matthieu 5, verset 16. Il ne voit pas que dans le passage que nous devons lire, le chapitre 6, verset 1, il nous appelle à être discrets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ça devient compliqué. Nous sommes la lumière, nous devons être vus. Chapitre 5. Chapitre 6. Gardez-vous pour ne pas être vu. Comment ça se fait? La Bible se contredit. Comment expliquer cela? Commençons d'abord par comprendre qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie. En grec, je rappelle que notre version du Nouveau Testament est une traduction du grec. En grec, le mot hypocrites représente un acteur. C'est quelqu'un donc qui considère que le monde, qui considère pardon, le monde comme une scène où il joue un rôle. Le souci, c'est que quand on va au théâtre, on est conscient que les acteurs jouent un rôle. Les acteurs ne cherchent pas à tromper le public. Ils savent pourquoi ils sont là. Le public n'est pas biaisé. Ils savent qu'ils assistent à une scène. Ce n'est pas le cas de l'hypocrite religieux. Lui, son ambition, c'est de tromper les autres. Comme un acteur, il fait semblant. Il joue la comédie. Il donne à voir une personne qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. Il porte un masque, un costume, afin de cacher qu'il est vraiment. Augustin faisait remarquer une chose. Il disait ceci: si certains vices engendrent de mauvaises œuvres, effectivement, la colère engendre de mauvaises œuvres, la jalousie engendre des mauvaises œuvres, la convoitise engendre des mauvaises œuvres. Il ajoute que l'hypocrisie, elle, donne lieu à de bonnes œuvres, mais d'une mauvaise manière. C'est en cela que l'hypocrisie est particulièrement dangereuse. Parce que visuellement, on fait du bien autour de nous. Et les personnes ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. L'hypocrite religieux peut même pousser à l'extrême sens. En faisant preuve de ruse. Puisqu'il est bien conscient que s'il donne en le montrant à tout le monde, en l'exposant, en le racontant à tous, ce ne sera pas bien vu. Alors, il use de stratégie. Pendant les offrandes, il fait tomber ses billets. Oups! Excusez-moi, les billets sont tombés. Et puis, il prend son temps pour les ramasser. Même si nous cherchons à ne pas créer les choses, mais c'est l'intention qui compte. Et c'est l'intention que le Seigneur voit. Je n'ai pas dit que je donnais beaucoup d'argent. J'ai tout fait pour le faire voir. Hypocrisie. Alors, y a-t-il vraiment contradiction entre ce que dit le chapitre 5 et ce que dit le chapitre 6? Pas du tout. Dans le chapitre 5, le Seigneur nous invite à faire preuve de, enfin en tout cas de faire attention à la fausse timidité, à la peur, la honte, la lâcheté, qui nous poussait à nous cacher. Alors que le chapitre 6, lui, il nous met en garde contre l'hypocrisie. Alexander, je l'ai dit, Badenus, lui résume cela par l'explication suivante. Il nous dit que nous devons nous montrer quand nous sommes tentés de nous cacher. Si nous avons peur, si nous sommes intimidés, si nous avons la crainte, si nous sommes tentés de nous cacher, c'est à ce moment-là que nous devons nous montrer pour être la lumière du monde. Et inversement, il nous invite à nous cacher quand nous sommes tentés de nous montrer pour de mauvaises intentions. Nous devons nous montrer quand nous sommes tentés de nous cacher et nous cacher quand nous sommes tentés de nous montrer. L'hypocrite religieux prétend rendre gloire à Dieu par ses actes, mais en fait, il ne cherche tout simplement qu'à être bien vu par les hommes. Pour lui, il est important que sa religiosité, sa spiritualité soit reconnue de tout le monde. Il cherche l'admiration, l'approbation des hommes. Et le Seigneur nous met en garde contre cette mauvaise motivation. La motivation. Daniel Amour raconte dans un de ses livres que Savonarole, c'est un célèbre prédicateur du 15e siècle, vit un jour une dame de certain âge adorait la statue de la Vierge Marie dans une cathédrale. Il observa pendant jour après jour, avec dévotion, religiosité, elle venait se prosterner devant la statue, en restant agenouillée des heures et des heures. Il chuchota ceci à notre prêtre. Remarque sa piété, sa consécration au culte de Marie. Et ne voit-il pas que le prêtre lui répond : ne te fie pas aux apparences. Il y a bien des années, une statue fut commandée à un artiste pour cette cathédrale. Le sculpteur rechercha une jeune femme pour lui servir de modèle. Il en trouva une, jeune, jolie, à la lune profondément spirituelle. Cette femme encore jeune inspira au sculpteur cette statue de la Vierge Marie. Cette dame que tu vois, agenouillée à un grand renfort de dévotion, que tu vois prosternée, c'est cette même femme qui lui servit de modèle il y a bien longtemps. Depuis que la statue a été sculptée, elle vient régulièrement lui rendre hommage. Dévotion à la Vierge Marie, ou bien dévotion à sa propre image. Ne nous fions pas aux apparences. Nous devons prendre le temps d'identifier ce qui nous motive. Posons-nous les questions suivantes. Pour quelle raison je fais ce que je fais? Est-ce pour le Seigneur? Est-ce pour moi? Est-ce pour les autres? Suis-je disposé à continuer de faire ce que je fais, même si les autres n'en sont pas conscients? Même si les autres ne le remarquent pas. Dans quel espoir je le fais? Pour quel résultat? Au début, je me posais la question, est-ce qu'il était possible d'être la lumière du monde, tout en étant discret? En fait, la question n'est pas de savoir si nos œuvres bonnes seront vues ou non, mais de savoir dans quel but nous agissons. Agissons-nous pour que la gloire retombe sur notre Dieu ou sur nous-mêmes? Que recherchons-nous? La récompense à venir peut être de deux sortes, selon notre motivation. Ceux qui cherchent l'approbation des hommes ont déjà leur récompense. Elle est temporelle, terrestre, matérielle, humaine. La récompense que l'enfant de Dieu authentique recevra, elle est éternelle, divine. J'attire votre attention sur une chose. Vous ne trouvez pas curieux qu'il est si facile pour nous d'oublier le mal que nous avons fait à quelqu'un d'autre? Ah bon? Je t'ai fait ça? Non, je ne m'en rappelle même pas. Par contre, il nous est facile de retenir le bien que nous faisons aux autres. Tu ne te rappelles pas que j'ai oublié ça? C'est bizarre quand même. Et inversement, ce qui est encore plus bizarre, nous gardons très facilement en mémoire, vous savez quoi? Le mal que l'on nous fait. Sans se retenir. Tu te souviens pas de ça? Et nous oublions très vite le bien que cette personne nous a fait. C'est curieux, n'est-ce pas? Dieu nous invite à apprendre, à oublier aussi le bien que nous faisons aux autres. Nous ne le faisons pas pour le retenir, afin d'en être glorifié. Nous le faisons juste parce que le Seigneur nous demande de faire différent autour de nous. Le bien que nous faisons autour de nous, nous devons savoir qu'il ne sera jamais oublié. Notre Seigneur, lui, se souvient de toutes nos bonnes œuvres. Hébreux chapitre 6, verset 10, lui dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Retenons ceci. Le bien que nous faisons, le bien que nous faisons, Dieu oublie ceux que nous gardons, ceux dont nous voulons absolument nous souvenir. Par contre, il va toujours se souvenir de ceux que nous avons oubliés. Proverbe chapitre 11, verset 25, ajoute ceci. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Quand nous faisons du bien autour de nous, Dieu nous bénit. Et quand nous sommes bénis, nous pouvons encore plus faire du bien autour de nous. Voilà le cycle de la bénédiction. Quand nous faisons du bien, nous sommes bénis. Et quand nous sommes bénis, nous pouvons encore faire plus de bien. Alors dans le passage que nous avons lu, le Seigneur passe aux choses concrètes. Et il prend un exemple. L'exemple de l'aumône. Alors j'attire votre attention sur quelques points. Dans ce passage, il n'est pas dit « si tu donnes ». Il est dit « lorsque tu donnes ». Verset 2. Verset 3. « Quand tu donnes ». C'est donc aux yeux du Seigneur, c'est quelque chose qui doit être normal, logique, habituel pour celui qui est en Christ. Nous sommes tous appelés à donner. Cela nous rappelle justement une phrase qui nous a été déjà donnée lors d'un message précédent. Certes, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Nous sommes appelés à faire preuve d'amour autour de nous. Et si nous aimons, nous sommes donc appelés à donner autour de nous. Cependant, il faut faire attention à ce que lorsque nous donnons, cela se fasse sans hypocrisie. Donner de la mauvaise manière revient en fait à donner en attirant l'attention sur nous-mêmes. Dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, d'Alfred Quinn, j'espère ne pas écorcher son nom, il nous a raconté ceci. Dans certaines synagogues, chacun annonçait à haute voix la somme qu'il donnait. Lorsque quelqu'un indiquait une aumône importante, alors il était appelé à la tribune, à côté du rabbin, et l'on sonnait du cor pour l'honorer. Vous imaginez l'ambiance? Une vraie vente aux enchères. C'est au plus fort. L'hypocrisie tient du fait que les hommes donnent l'impression, en fait, de s'intéresser aux autres. Je montre aux autres que je donne beaucoup. C'est parce que j'aime les autres. Pas du tout. En réalité, ces personnes veulent juste attirer l'attention sur eux-mêmes et recevoir la louange des autres. C'est une bonne chose de ne pas dépendre de l'argent. C'est une bonne chose d'être capable de donner avec libéralité. Mais nous devons faire attention que cette facilité ne cache pas un sentiment hypocrite. N'oublions pas que la récompense qui vient des hommes exclut la récompense qui vient de Dieu. Qu'est-ce que nous préférons? La récompense des hommes ou la récompense de Dieu? Nous ne devons pas perdre de vue, que l'argent que nous donnons, il vient tout simplement de notre Dieu. Il est étrange de voir dans cette église des croyants qui, lorsqu'ils sont en froid avec le responsable d'église, ils décident de faire la grève de la team. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils s'imaginent ainsi punir l'église, sanctionner le responsable. Quel est vrai? Est-ce que quand je donne la team, je le fais pour le responsable d'église? Un autre point. Sachez qu'il est possible de donner, même dans un contexte de pauvreté ou de précarité. Voyez l'exemple des églises de Macédoine. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4, il nous dit ceci. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. On ne va pas se mentir, ce n'est pas chose évidente. Mais oui, il est possible de donner lorsque nous vivons une situation de pauvreté ou de précarité. Sachez aussi que le Seigneur ne regarde pas à la quantité, mais à la disposition de notre cœur, notre motivation. Il ne nous demande pas de nous ruiner, de nous endetter pour donner. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8, et les versets 12 à 14 nous disent ceci. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce qu'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Un dernier point. Ne limitons pas le don à l'aide financière. Le terme qui a été traduit par aumône et le mot soumé, désolé, hein, je sais, désigne en fait littéralement tout acte de miséricorde et de piété. Les besoins de nos prochains ne se limitent pas à l'argent. L'amour que nous avons pour notre prochain va nous amener à faire preuve de sagesse dans l'aide que nous portons. Nous pouvons aider certes avec de l'argent, mais nous pouvons aider aussi avec de la nourriture, avec des vêtements. Nous pouvons aussi aider en accordant du temps, une présence, des conseils avisés, une prière. Le don, ce n'est pas toujours financier. Pour finir, je vais vous laisser avec quelques principes afin que nous puissions tous apprendre à donner sans hypocrisie. Je partage avec vous juste six principes. Le premier principe. Soyons convaincus que donner de bon cœur, c'est investir en Dieu. Luc chapitre 6, verset 38 dit ceci. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le port de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Nous sommes appelés à donner de bon cœur. C'est un investissement dans notre Dieu. Le principe numéro 2. Le don véritable doit représenter un sacrifice. Rappelez-vous l'histoire de David, qui avait besoin d'un terrain pour offrir une offrande à son Dieu. Histoire qui nous est racontée dans 2 Samuel, chapitre 24. Le propriétaire du terrain s'apprêtait à lui donner le terrain. Il a refusé. Il a refusé de donner au Seigneur quelque chose qui n'allait rien lui coûter. Il a insisté pour payer pour le terrain qu'on lui demande. Selon vous, aux yeux de Dieu, quelle offrande aura plus de valeur? 10 000 euros donnés par un milliardaire ou 50 euros donnés par un retraité qui touche à peine 1 000 euros par mois? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Le temps véritable pour représenter un sacrifice. Ça va nous coûter quelque chose. Principe numéro 3. La responsabilité de donner n'a rien à voir avec ce qu'on possède. Luc chapitre 7, verset 10 dit ceci. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas non plus pour les choses plus importantes. Le principe numéro 4. Les dons amènent la bénédiction spirituelle. Toujours le chapitre 16 de Luc. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Comprenons qu'à ceux qui ne sont pas fidèles dans la gestion des choses du monde, le Seigneur ne pourra pas nous confier des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Nous appelons des bénédictions de notre Dieu, alors que nous sommes des fois parfois incapables de gérer ce que nous avons déjà. Comment le Seigneur pourrait nous bénir et nous donner encore des choses? L'avant-dernier principe, le chapitre 5. Donner est une affaire personnelle. Le verset 2, Corinthiens, chapitre 9, verset 7, dit ceci. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Personne ne vous oblige à donner quoi que ce soit. Cela vient de votre cœur et ce que le Seigneur vous invite à donner. Et je termine par quelque chose que j'ai bien signalé, le principe 6. Nous devons donner en réponse à un besoin. Nous devons faire preuve de sagesse lorsque nous cherchons à aider quelqu'un. Le but n'est pas juste de donner à tout va, pour atteindre un certain quota, pour se satisfaire. Eh bien oui, ce mois-ci, j'ai donné tant. Non. Le but, c'est de répondre à un besoin réel. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Je parle. Je lui parle. Je prends conscience de ce dont il a besoin et je réponds à ce besoin si j'en ai la possibilité. Le but n'est pas d'assister les autres. Je ne vais pas aider quelqu'un si je m'amuse à lui donner de l'argent parce qu'il est au chômage ou refuse de chercher du travail. Ce n'est pas l'idée. Je vais encourager cette personne à chercher du travail. Et si, dans cette recherche, il a du mal à trouver du travail, là je pourrais l'aider. Soyons sages lorsque nous sommes appelés à aider, lorsque nous sommes appelés à donner. Alors, je vais conclure, je vais m'arrêter là. J'ai commencé avec ce titre, l'hypocrisie chrétienne. J'ai associé ces deux mots. Et ces deux mots n'ont rien à faire ensemble. Un chrétien ne peut pas être hypocrite. Un chrétien ne peut pas jouer un rôle. Le Seigneur nous appelle à l'authenticité. Être authentique, c'est ne pas faire de la contrefaçon, de faux semblants. L'authentique chrétien est une personne vraie. Il n'y a pas de différence entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle donne à voir extérieurement. Le chrétien n'est pas là pour jouer la comédie. Il n'est pas là pour tromper les autres. Dans le passage de Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4, notre Seigneur insiste sur l'importance d'avoir la bonne motivation devant Dieu et devant les hommes. Cette motivation va conditionner notre récompense. Cette récompense peut être matérielle, humaine, ponctuelle, si nous nous amusons à faire des choses pour les hommes. Si le chrétien travaille pour son Dieu, sa récompense est éternelle. Tout dépend de notre motivation. On a souvent comparé les chrétiens à des temples de décoration, de beaux arbres sans fruits. Un bel arbre, majestueux, un beau feuillage, et pourtant, aucun fruit. Tout est de l'apparence. Quand on cherche en profondeur, il n'y a rien. Si dans le monde, les non-croyants sont incapables de voir les bonnes œuvres des chrétiens, ils vont donc se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? En quoi ils sont meilleurs que nous? Par contre, si le chrétien se distingue par sa mentalité, son comportement, alors il a de quoi interpeller. Et ainsi il donne une bonne image de son Dieu. Alors je vais terminer avec cette citation que j'ai trouvée dans les commentaires bibliques de John MacArthur. Les bonnes œuvres sont censées édifier et bénir le prochain. Et au final, c'est Dieu qui glorifie. Ce qui importe, ce ne sont pas les œuvres des hommes, mais l'œuvre de Dieu qui est déterminante. Par souci d'authenticité, les membres du royaume de Dieu doivent se faire remarquer dans le bon sens, par les bonnes œuvres, mais sans pour autant faire de bonnes œuvres pour se faire remarquer. Toute la différence est là. Toute la différence réside dans la motivation. Se faire remarquer par nos bonnes œuvres, sans pour autant faire de bonnes œuvres pour se faire remarquer. Je vous invite à prier avec vous. Le match, je veux te remercier encore pour ta parole. Nous voulons prendre le temps de t'écouter et de méditer ce que tu viens de nous dire ce matin. Tu as fait de nous de nouvelles créatures, non pas pour vivre comme nous le faisions avant. Tu nous as transformés et tu continues à nous transformer. Et tu veux voir en nous une vie authentique, vraie, réelle. Pas de faux semblants, pas de comédie, pas d'hypocrisie. Père, nous te prions de nous aider à garder les yeux rivés sur toi, afin que toutes nos actions soient pour ta gloire. Que tout ce que nous sommes appelé à faire, à dire, ne soit que pour toi. Et non pour recevoir l'éloge des hommes, non pour recevoir la louange des hommes, l'approbation des hommes. Nous sommes tes enfants et nous voulons agir uniquement pour toi. Nous voulons être ces lumières, ce sel. Nous voulons être ce lampe mise sur un pied, afin d'éclairer tous ceux qui sont autour de nous, mais non pas pour juste se faire voir, mais pour que tu sois vu à travers nous. Alors Père, je te prie de nous changer petit à petit, nous transformer, nous ouvrir aussi les yeux sous cette hypocrisie qui se cache en nous. Père, pardonne-nous si nous n'avons pas été vigilants, s'il nous est arrivé d'agir par hypocrisie, même sans le savoir. Ouvre nos yeux. Sors-nous de cet aveuglement. Donne-nous par ton esprit cette capacité à voir ce qui ne va pas. Et aide-nous à l'enlever. Enlève, parce que nous voulons être ces enfants authentiques. Nous voulons continuer à ravir ton cœur, faire la joie de ton cœur, par notre comportement et notre attitude. Père, je te remercie parce que tu es celui qui est fidèle. Et tu es celui qui a la capacité de transcender chacun d'entre nous. Alors merci pour ton action, et que nous puissions garder ta parole au fond de notre cœur et appliquer ce que tu nous apprends chaque jour. Voir te sentir, notre Dieu. Amen. Que bon dimanche.